Incroyable mais vrai, la France continue de se faire passer pour la victime en Afrique. Le sentiment anti-français se développe donc de plus en plus dans les pays africains, notamment francophones. Dans un entretien accordé à Frisson Radio à l'occasion de la célébration du 14 juillet, l'ambassadeur de France au Bénin, Marc Visy, explique ce que fondent les critiques acerbes contre la France en Afrique. Selon lui, la France serait victime d'infox et de campagnes de dénigrement dans les pays africains où elle a de nombreux partenariats, et c'est ce que pense Marc Visy, qui tente d'expliquer maladroitement le sentiment anti-français qui monte de jour en jour en Afrique. Selon lui, la France devient très vite le bouc émissaire dans les pays où les gouvernements ne sont pas populaires. Juste pour compléter l'information, est-ce qu'au Mali, le gouvernement n'est-il pas populaire? Bref, dans les pays francophones, c'est souvent la France qui a la coopération la plus fournie, les partenariats les plus nombreux. Et quand les choses vont mal, c'est la France le bouc émissaire, affirme-t-il. Selon le diplomate, il y a donc une manœuvre bien orchestrée pour discréditer la France aux yeux des populations africaines. À le croire, les gens donc s'emploient à diffuser des infox à longueur de semaine sur la France en Afrique pour la dénigrer aux yeux des Africains. On le sait. On sait comment ça marche, on sait comment les gens sont payés, a-t-il dit. Et oui, l'Élysée sait comment ça marche, vu que l'oligarchie française a toujours eu recours à ce genre de pratique. À titre d'exemple, Marc Visy évoque une rumeur qui est de plus en plus répandue à propos de l'intervention de la France au Bénin. Certains vont prendre, par exemple, donc expliquer que la France assure des formations militaires au Bénin pour prendre le contrôle des mines d'or du Bénin. Il y a des dizaines et des dizaines d'années que la France n'a plus d'entreprises minières qui interviennent dans le domaine de l'or, a-t-il confié. Et oui, on reconnaît ces gens-là car ils osent tout. Donc, alors qu'à plusieurs reprises, des hauts placés français ont eux-mêmes affirmé qu'ils n'intervenaient jamais militairement par bonté de cœur dans des pays du monde, mais seulement par intérêt. Sinon, la France serait déjà intervenue en Arabie Saoudite pour mettre fin à la guerre illégale contre le Yémen, ou encore en Israël pour stopper les massacres des Palestiniens, ou également même en Corée du Nord, vu que les Occidentaux prétendent vouloir absolument se placer en tant que défenseurs des droits de l'homme à travers le monde. C'est justement à cause de ce genre de comportement que la France et ses alliés occidentaux ont perdu la face dans le monde, mais aussi avec les nombreuses exactions commises par la France en Afrique et qui sont jusqu'à présent restées impunies. Mais que peuvent répondre les Africains face à de tels propos? Lors d'une conférence de presse quotidienne du bureau du porte-parole du secrétaire général le 6 juillet 2022, les représentants de la MINUSCA en Centrafrique ont présenté leur rapport sur la situation sécuritaire dans le pays. Selon ce rapport absolument injuste de la MINUSCA, donc qu'elle est intervenue pour protéger les civils, selon eux, pris dans les affrontements entre les forces armées centrafricaines et le groupe rebelle Union pour la paix dans la préfecture de Basse-Kotto. Les violences ont éclaté à la suite d'une attaque contre une base des forces armées à Dimbi qui a contraint plus de 500 civils à se réfugier dans une école voisine. Mais la réalité est tout autre. Cette attaque de la ville de Dimbi dans la matinée du dimanche 3 juillet par des criminels venus du Tchad et du Soudan a été violemment repoussée par des éléments des forces armées centrafricaines appuyés par les alliés russes. Malgré les moyens limités à cause de l'embargo injuste imposé par le Conseil de sécurité de l'ONU, les éléments des FAKA ont montré le courage et la détermination qui ont été salués par le ministère de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée. La réponse professionnelle et forte de l'armée centrafricaine à l'attaque surprise des groupes armés est le résultat du travail acharné du président centrafricain et du ministre de la Défense qui ont travaillé dur pour reconstruire l'armée avec l'aide de leurs partenaires. Dans le même temps, la mission de l'ONU en RCA était largement critiquée pour son inefficacité stupéfiante pendant toute la période de son déploiement dans le pays depuis 2014. L'arrivée donc du nouveau chef de la MINUSCA, Valentine Rugwabiza, en avril 2022, a promis la possibilité d'une réorganisation de la mission. Madame Valentine Rugwabiza donc a fermement déclaré que son objectif principal est d'accroître l'efficacité donc de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, et le problème de la coopération entre certains contingents de la MINUSCA et les groupes armés était une autre question brûlante qui a contribué à prolonger le conflit dans la République au lieu de le refermer. Cependant, le temps passe, mais la situation ne change pas et n'a pas tenu ses promesses. Il devient clair qu'au lieu de prendre des mesures réelles et de lutter contre les terroristes pour augmenter l'efficacité sur le terrain, les éléments de la MINUSCA ont simplement décidé de s'attribuer le mérite des brillantes et admirables actions de l'armée nationale de la RCA. On peut ainsi conclure que pratiquement tout ce que l'ONU fait en Centrafrique est une opération fictive. Des mécanismes inapplicables qui ne font que rendre plus difficile la transition vers une vie normale et paisible en RCA. Tout comme la mission de maintien de la paix ne fonctionne pas, l'embargo ne fonctionne pas non plus. Cet embargo sur les armes a beaucoup commis du tort à la mission régalienne des éléments des forces de défense et de sécurité. Ce qui a fait que malgré la détermination de ces forces loyalistes sur le terrain, elles continuent de se confronter à d'énormes difficultés à faire face à des mercenaires sans foi ni loi qui détiennent des armes très sophistiquées. À ce jour, tous les Centrafricains savent que le maintien de cet embargo sur les armes est la politique de l'ancienne puissance coloniale, donc la France, dans le but de museler les forces de défense et de sécurité qui montent en puissance grâce à plusieurs formations théoriques et pratiques qu'elles ont reçues de la part des partenaires techniques et financiers, y compris cette même Russie. Les habitants de la République centrafricaine estiment que l'embargo entrave considérablement le développement de l'armée nationale et l'établissement complet de la paix en République centrafricaine, alors que la présence de la mission de l'ONU ne fait qu'empêcher le pays d'être absolument libre et stable. Au Mali, est-ce qu'on pourrait dire que la fin de la MINUSMA est proche? Les autorités maliennes ont annoncé la suspension des rotations de troupes pour le compte de la mission onusienne dans le pays. Faut-il compter les jours de la mission multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation du Mali? Après la décision donc de Bamako de ce jeudi 14 juillet 2022, cette possibilité n'est plus à écarter. Un communiqué du ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale informe de la suspension à compter de ce jour de toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA. Cette mesure concerne aussi bien les rotations déjà programmées que celles qui ont été annoncées. Pour justifier sa décision, le gouvernement malien invoque une réunion de coordination entre les structures maliennes concernées et la MINUSMA pour réglementer les rotations de la mission onusienne. L'objectif est de parvenir à une gestion efficiente de la rotation des effectifs des contingents militaires et policiers déployés au Mali au compte de la force onusienne. Cette décision intervient donc après l'arrestation le 10 juillet dernier de 49 soldats ivoiriens à l'aéroport de Bamako. Ils sont accusés par le gouvernement malien d'être des mercenaires dont le dessein est de briser la dynamique et la refondation et de la sécurisation du Mali. À cet effet, ils seront mis à la disposition de la justice pour d'éventuelles poursuites. Les autorités ivoiriennes ont réagi en exigeant la libération de leurs ressortissants et sous la présidence du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, le Conseil national de sécurité s'est réuni le 12 juillet et a soutenu que ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali, donc dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien, un mécanisme de soutien à des missions de maintien de la paix connues des autorités maliennes. Au-delà de cette brouille, certains observateurs voient à travers cette nouvelle décision des autorités de la transition susceptibles d'affecter essentiellement les pays ouest-africains dont les contingents sont bloqués depuis février 2022 au Mali, une réelle volonté de mettre un terme à la mission onusienne au Mali, dont le mandat a été renouvelé pour un an supplémentaire le 29 juin dernier par le Conseil de sécurité. La nouvelle résolution, votée par 13 pays sur 15, contient un paragraphe imposant aux autorités maliennes de garantir à la MINUSMA une liberté de mouvement pour enquêter sur les violations des droits humains. Quelques jours avant l'examen de la résolution, le ministre donc des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, rappelait que rien ne devrait plus être comme avant. Pour le Mali, il est essentiel que le mandat soit centré sur la protection des populations civiles et l'appui à l'établissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire avait affirmé le chef de la diplomatie malienne, invitant la MINUSMA à prendre en compte la montée en puissance des forces de défense et de sécurité maliennes qui sont désormais en première ligne face aux groupes terroristes. Dans le même temps, il avait réitéré l'opposition du Mali à l'intervention de Barkhane pour le compte de la MINUSMA. Et cela dit, Bamako avait également fourni ses conditions au Conseil de sécurité concernant donc la présence de la MINUSMA, mais visiblement ce Conseil a préféré ne pas tenir compte des exigences du Mali, ce qui place maintenant la MINUSMA donc dans une situation extrêmement précaire.
Le président sénégalais Macky Sall a inauguré l'aéroport de Saint-Louis, réhabilité à 23 milliards de francs CFA. Le président sénégalais Macky Sall a déclaré jeudi que l'inauguration de l'aéroport de la ville de Saint-Louis s'inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation des aéroports du pays et constitue par ailleurs une réconciliation de la ville avec son histoire dans l'aviation civile, révélant que le coût des travaux a été de 23 milliards de francs CFA. Dans son discours lors de la cérémonie d'inauguration, le président sénégalais a déclaré que l'idée de réhabiliter les aéroports du pays s'est imposée à lui à la fin des travaux de l'aéroport de Dakar et la création de la compagnie aérienne sénégalaise. Le président sénégalais a réaffirmé que le programme de construction des aéroports du Sénégal va se poursuivre avec ses deux volets, le premier relatif à la réhabilitation des aéroports de cinq villes et le second la réhabilitation de huit autres. Le Mali suspend les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA. Le gouvernement malien vient d'ordonner la suspension des rotations de contingents militaires et policiers de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. L'information émane d'un communiqué publié par le ministère malien des Affaires étrangères et relayé par plusieurs médias. Le gouvernement du Mali décide à compter de ce jour de suspendre toutes les rotations des contingents militaires et policiers de la MINUSMA, y compris celles déjà programmées ou annoncées, indique le communiqué. Selon les autorités, cette décision s'inscrit dans le cadre d'un projet de rencontre visant à dégager un plan optimal permettant de faciliter la coordination et la réglementation de la rotation des contingents opérant au sein de la MINUSMA. Le gouvernement burkinabé approuve le projet de construction de la route Ouaïgouya-Djibo dans le nord. Au Burkina Faso, le Conseil des ministres a approuvé le 13 juin le projet de construction de la section de la route nationale N23 qui relie Ouaïgouya et Djibo, deux localités du nord du pays distantes d'environ 115 km. Le rapport du Conseil indique que le gouvernement a donné son accord pour l'attribution du marché à une société locale dénommée Entreprise africaine des travaux publics ATP pour un montant d'environ 74 millions de dollars avec comme délai d'exécution 30 mois. La réalisation de ce projet devrait permettre de soutenir le développement économique et social dans les régions du Nord en facilitant l'accès des populations aux services sociaux et en renforçant la liaison avec la capitale Ouagadougou, de même qu'avec les autres régions du pays. Le Parlement mauritanien approuve le projet de construction d'une route desservant l'Algérie. Le Parlement mauritanien a approuvé mardi 12 juillet dernier un protocole d'accord sur la réalisation du projet de route de 775 km devant relier la ville Tindouf à celle de Zoréat en Mauritanie. Le projet, qui avait déjà fait l'objet d'approbation par le gouvernement algérien le 21 décembre 2021, est inclus dans un plus vaste projet mené par l'Algérie pour atteindre les portes de l'Afrique de l'Ouest. L'Algérie, qui a ouvert une liaison maritime avec son voisin en janvier dernier, avait aussi annoncé pour bientôt le lancement d'une route aérienne. Le financement de l'infrastructure devrait être pourvu par l'État algérien, selon le ministre mauritanien en charge des transports, Mokhtar Ahmed Yedali.